Place publique.
Ce soir, on vous raconte l'histoire d'un investisseur jurassien qui n'a pas froid aux yeux. Il y a un mois, Alain Beuret a misé 500 000 de francs pour avoir un stand à Baselworld et faire ainsi connaître sa nouvelle marque de montres. Aujourd'hui, ses garde-temps intéressent des acheteurs du monde entier. Notre entretien dans un instant. Chaque jour, dans l'arc jurassien, 30 000 frontaliers viennent en Suisse pour travailler. Une main-d'œuvre qui contribue à la prospérité de notre région, mais qui génère aussi quelques crispations chez une partie de la population. Des statistiques publiées récemment permettent de mieux comprendre le phénomène et de dépassionner le débat. Enfin, cette année, on commémore le cinquantenaire de la révolte de mai 68, y compris en Suisse. Le musée d'histoire de Berne consacre une exposition à ce chapitre important de l'histoire contemporaine. L'occasion d'entendre tout à l'heure le témoignage d'une biennoise d'origine française qui a vécu cette révolte sur les bancs de l'université du Mans.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir. Il y a un mois, Baselworld battait son plein. Parmi les exposants, un investisseur jurassien plutôt culotté. Alain Beuret n'a pas hésité à dépenser 500 000 francs pour y monter un stand, qui plus est dans la prestigieuse Halle 1 du plus grand salon horloger au monde. L'occasion d'y présenter sa nouvelle marque de montres intitulée Unique. Et ça a fonctionné. Des acheteurs issus de 41 pays se sont pressés au portillon. L'histoire est d'autant plus frappante qu'elle intervient quelques mois seulement après qu'Alain Beuret, 56 ans, s'est lancé dans le domaine en rachetant la fabrique Achor, fondée à l'Ajoux dans les années 70. Aujourd'hui, la société qu'il dirige a été déplacée à Delémont et rebaptisée Groupe Achor. Alain Beuret revient pour nous sur cette aventure baloise qui pourrait lui permettre de conquérir le monde. C'est en tout cas son ambition.
Alors la grande chance qu'on a eue en fait, c'était un petit peu quand même la crise de l'horlogerie qui a fait que sur Bâle, comme c'était dit dans la presse, il y avait 50% de moins d'exposants. Je pense qu'en période normale, on aurait mis plusieurs années pour pouvoir déjà partir peut-être en salle 5 et après arriver éventuellement en salle 1. La grande chance, c'était la crise pour nous. Et puis en même temps, de démarrer une entreprise en période de crise, à l'époque quand j'ai créé mon entreprise Maison du Store, c'était aussi en pleine période de crise dans le domaine du bâtiment. Et puis ça avait été porteur, donc c'est toujours intéressant de partir à cette période-là. C'est peut-être un peu moins stressant dans un sens. Puis pour nous, ça a été un grand succès dû à cette montre en fait, qui sort totalement du lot de tout ce qu'on pouvait voir à Bâle.
Comment Bâle vous accepte? Comment on arrive à se faire une place alors qu'on a une marque qui est encore tout à prouver?
C'est simplement parce qu'actuellement, il y avait du libre. Et puis, quand il y a du libre, c'est plus facile de pouvoir se positionner. Ils nous ont fait confiance. On a quand même dû montrer des plans du stand, donc de la création du stand. C'est des gros investissements, ça c'est clair et net. Et puis, pour nous, c'était un petit peu le qui tout double. C'était ou bien donner de la matière à l'entreprise, ou alors peut-être que je n'allais pas beaucoup plus loin au niveau de mes investissements à ce niveau-là. Quoi.
C'était qui tout double, d'autant plus délicat ou osé d'investir à Bâle qu'auparavant, vous veniez de réaliser une mauvaise affaire du côté de Berne.
Oui, on a fait pendant... C'était une idée d'un de mes collaborateurs de créer une boutique éphémère dans la vieille ville de Berne, donc on était bien placé, on avait tout pour faire, je dirais peut-être un carton en période des fêtes. Et c'est un investissement assez conséquent quand même pour un mois et demi de boutique. Et les ventes ont été, je dirais, hyper médiocres. Et ça, c'était un gros souci. On se disait peut-être qu'on partait faux, qu'on n'avait peut-être pas le bon produit et tout ça. Et c'est un petit peu... c'était un investissement de 250 000 francs pour un mois et demi. C'était assez délicat quand même. Et puis, ça n'a pas été porteur. Et je dirais, c'est ce qui m'a poussé d'aller à Bâle rapidement, la chance de pouvoir y être rentré cette année. Et ça nous permettait de voir si on était dans le juste ou pas. Puis effectivement, par rapport à Bâle, 41 pays maintenant sont intéressés par notre produit, donc il y a de quoi faire.
Un produit, donc, la marque Unique, c'est celle-là que vous mettez en avant?
Oui, parce qu'on paye par marque qu'on promouvoit sur le stand. Et là, pour limiter les frais, donc on est allé vraiment avec nos produits phares actuellement, qui est le produit Unique. C'est, comme je l'ai dit, un boîtier totalement en verre, c'est une première mondiale. Et je dois dire que les acheteurs des différents pays qui sont intéressés étaient bluffés par ce produit parce que c'était vraiment, ça sortait du lot. Voilà.
41 pays représentés par les acheteurs qui viennent vous voir au stand, c'est un impact énorme. On ne parle pas des recensions dans la presse spécialisée. Alain Beuret, vous intéressez le monde entier. Est-ce que derrière, un mois plus tard, vous arrivez à suivre ? Est-ce que vous arrivez à satisfaire l'engouement ?
Alors c'est clair que suite à la foire, il y a déjà eu beaucoup d'échanges de courriers, courriels par rapport à ça. Et maintenant, les pays les plus insistants seront servis les premiers. Et actuellement, donc, on a le Japon, on a la Chine, on a l'Angleterre, on a la Suède, l'Afrique du Sud. Tout ça, c'est des pays qui pressent à la roue et qu'on devra visiter dans les tout prochains jours afin de signer des contrats, quoi.
Mais vous sous-traitez la fabrication de vos montres, vous avez un système mis en place, vous en avez produit 3000. Là, il s'agit quand même de dizaines de milliers. Est-ce que vous n'êtes pas mis en difficulté tout seul ?
C'est peut-être le côté intéressant, disons, maintenant, c'est en parallèle de la vente, c'est d'assumer la production. Et là, on est allé à Venise voir notre fabricant de verre, donc on est en train de mettre en place toute une structure sur place là-bas. Pour assumer, parce que ça serait peut-être le point faible, parce que c'est un artiste en fait qui nous fait chaque verre. Et là, on va peut-être créer un atelier, on est en discussion, il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à nous. Et après, sur le plan du montage, du tournage ici, qui se fait ici dans la Zélande, là on n'a pas de problème, on aurait des productions qui peuvent aller jusqu'à 10 000 montres par semaine, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Mais le point faible actuellement, c'est la fabrication des moulinets qui se fait à Venise.
Donc une entreprise qui va se développer très rapidement, si on vous entend, puisque cette année encore, vous comptez produire 60 000 montres.
Oui, disons qu'en fonction des carnets de commandes qui rentreront, c'est un petit peu l'espérance, c'est un peu l'espérance qu'on a et on met tout en œuvre pour y arriver.
Est-ce que ça va créer des emplois, notamment dans le Jura ?
Bon, actuellement, nous, ce qu'on fait sur place ici, c'est le développement de la montre, donc le développement pur, et après, toute la fabrication donc, est sous-traitée. À moyen terme, on espère créer des emplois, c'est clair, ici, peut-être au niveau du T2, pourquoi pas, parce qu'on aura le volume pour le faire.
Donc vous-même assurez la production, la chaîne de production ?
C'est-à-dire la chaîne, le T2, c'est le montage en fait de la montre, oui. Et puis ça, c'est pas un immense investissement, et du moment qu'on pourrait le faire nous-mêmes, je pense que ça serait intéressant au niveau de la production pour nous.
Donc, si on résume, cette histoire qui s'annonce une belle histoire, qui part sur les chapeaux de roue, elle part d'abord d'une attitude que vous avez eue par rapport à l'investissement, vous avez pris des risques. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui fait de vous une exception dans la région ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on prend suffisamment de risques dans le milieu de l'entreprise ?
Disons que les risques font partie un petit peu de ma philosophie, que ça soit à tout niveau, que ça soit dans le sport ou dans ma vie professionnelle. J'ai toujours aimé aller à l'aventure. Hein, c'est cette partie-là qui est palpitante. Après, je ne pense pas que je suis un risque de tout en ayant fait ça, mais c'est vrai que beaucoup voyaient des signes négatifs à ce niveau-là et j'ai eu peu d'encouragement.
En matière de soutien, notamment des autorités ou des organes de promotion, vous en attendez plus ?
Alors, j'ai eu l'occasion de voir des entreprises, notamment en France, se développer. Et puis, je pense que le système français à ce niveau-là, alors, ils ont les départements qui sont derrière, ils mettent des ingénieurs gratuitement à disposition d'une entreprise qui se développe. Je dirais qu'ils ont beaucoup d'avance par rapport à nous. Ici, ce qu'on fait, c'est compliqué. On ne va même pas chercher les informations parce qu'elles sont difficiles. Il y a pas, la promotion économique n'est peut-être pas suffisamment développée. Ils devraient peut-être prendre la graine un petit peu sur nos voisins à ce niveau-là.
En même temps, on le répète, vous êtes plutôt un entrepreneur ou un investisseur atypique qui prend des risques. Vous prenez aussi peut-être de court aussi les autorités à ce niveau-là.
Disons que dans ce que je fais, j'ai l'habitude de prendre des décisions rapides. Et puis après, comme je suis un homme qui n'a pas beaucoup de patience, j'aime bien que les choses se développent rapidement aussi. Donc j'investis ce qu'il faut pour que ça se fasse dans ce sens-là. Effectivement, je pense qu'aller chercher peut-être, ça prendrait peut-être beaucoup plus de temps. Et puis le temps, c'est de l'argent aussi, c'est de l'argent. Et puis ça ne vaut pas la peine. Donc je préfère vraiment gérer sans avoir affaire à une et d'autres.
Place publique.
Les Français travaillent en Suisse et les Suisses achètent en France. Pour ne pas s'arrêter là et mieux comprendre ce qui se joue de part et d'autre de la frontière, l'Observatoire statistique transfrontalier de l'arc jurassien a publié récemment plusieurs portraits des territoires directement concernés par ces échanges. La question des travailleurs frontaliers est bien sûr abondamment documentée avec des chiffres qui concernent entre autres les cantons de Neuchâtel et du Jura. Pour y voir plus clair, nous vous proposons d'entendre quelques précisions de Nordine Mamda, chef de projet au service de statistiques du canton de Neuchâtel et responsable de l'Observatoire statistique de l'arc jurassien.
Au total, sur les territoires de coopération, on est autour de 30 000 frontaliers à peu près, dont 10 000, c'est le parc du Doubs, l'agglomération urbaine du Doubs, et environ 5200 qui sont dans la partie jurassienne, dont le Nord-Franche-Comté, canton de Jura. À rappeler que ces chiffres sont des chiffres qui viennent du recensement français. De la partie suisse, les chiffres sont un peu plus élevés. Si je prends le cas du canton de Jura, et selon les chiffres de l'OFS, on est autour de 7700 frontaliers qui viennent travailler dans le Jura. Donc il y a une partie qui vient hors de ce territoire de coopération, une partie qui vient d'autres départements français.
Donc ça veut dire que la région attire toujours plus loin en France ?
Tout à fait, tout à fait. Les anciennes études ont montré que l'origine géographique du frontalier est en train de s'élargir dans un sens comme dans un autre. Aussi, le lieu de travail des frontaliers n'est plus cantonné autour de la frontière. Les travailleurs frontaliers vont travailler plus loin, vont travailler à Lausanne, à Genève, à Bienne. Donc ça dépasse ce territoire de coopération. Mais l'essentiel reste concentré tout de même sur le long de la frontière avec cet échange lieu de résidence en France et lieu de travail en Suisse.
Le nombre de travailleurs frontaliers venant de France augmente, c'est aussi ce que vous nous rappelez dans cette documentation. Néanmoins, vous nous rendez attentifs au fait qu'il faut relativiser ces chiffres, notamment en comparaison avec les pendulaires qui, entre cantons suisses, sont aussi très nombreux.
Effectivement, on se focalise souvent sur la main-d'œuvre qui vient de l'autre côté de la frontière, mais essayons de voir ça dans un contexte un peu plus large. Les cantons suisses, d'une manière générale, vivent cet échange de la main-d'œuvre frontalière entre cantons. Les pendulaires viennent d'autres cantons, que ce soit dans le Jura vers Neuchâtel ou le Neuchâtel vers le canton de Vaud. Et puis finalement, on est à peu près, si je prends le cas du canton de Neuchâtel, on est avec un solde nul, autant de frontaliers que de pendulaires.
Si les Français viennent chercher du travail en Suisse, les Suisses sont plutôt friands de faire leurs courses de l'autre côté de la frontière. Et ça, vos chiffres le montrent aussi d'une certaine manière.
L'étude menée sur les territoires de coopération traite, en plus de l'emploi, la démographie traite d'autres thématiques, notamment la santé, les logements ou le commerce. Il est clair que le flux ne reste pas seulement dans un seul sens. Le tourisme d'achat existe. Malheureusement, nous n'avons pas des chiffres précis pour démontrer ça, mais le tourisme d'achat existe, le tourisme aussi en matière de soins dentaires existe, on l'avait démontré dans une ancienne étude sur la santé.
En ce qui concerne le tourisme d'achat, alors pas de chiffres précis, mais tout de même des indices.
Absolument, pas de chiffres précis, mais le nombre de commerces d'hypermarchés et supermarchés dans la région française le démontre. On est à peu près à deux tiers de centres d'hypermarchés marchés côté français, un tiers côté suisse. Ces centres commerciaux qui sont près de la frontière, il y a une première motivation, c'est déjà parce que c'est une zone riche par rapport aux revenus frontaliers. Donc il s'adresse avant tout à la population frontalière qui réside dans ces régions françaises et qui travaille en Suisse, mais cela n'exclut pas un tourisme d'achat de la population suisse qui va faire ses courses de l'autre côté de la frontière.
Et même si ces données statistiques rendues publiques depuis 15 jours démontrent que le nombre de travailleurs frontaliers a tendance à augmenter, elles permettent aussi de recadrer un débat souvent trop passionnel. Nous avons rencontré pour en parler deux acteurs de la coopération transfrontalière, à savoir Mireille Gasser, secrétaire générale de la conférence transjurassienne pour la partie suisse, et son homologue français Thierry Brunet. Tous deux nous livrent leur analyse de la situation.
Ces chiffres sont intéressants parce qu'ils permettent de montrer que l'on a des territoires fonctionnels, qui ont leur logique propre, une dynamique d'emploi, avec des centres urbains qui créent de l'emploi et des communes alentours sur lesquelles on trouve les résidents qui vont ensuite aller occuper ces emplois. Donc ces territoires sont transfrontaliers. De fait, il y a une frontière et donc une partie de ces travailleurs sont frontaliers. Mais si on fait abstraction de cette frontière, ces gens viennent travailler dans un territoire qui est le leur. D'ailleurs, ces régions qui créent de l'emploi attirent chez nous des Vaudois, des Fribourgeois, des Bernois, qui a priori ne posent pas de problème lorsqu'ils viennent travailler chez nous. Et lorsque c'est le frontalier avec sa plaque française, là, ça nous heurte. On a l'impression qu'il vient nous déposséder de quelque chose, alors que lorsque c'est un travailleur d'un autre canton, on a plutôt l'impression que on est plutôt fiers de lui procurer un emploi. Donc ça fait aussi appel à des barrières mentales qui sont chez nous et qui font qu'on ne perçoit pas de la même manière un confédéré ou un frontalier.
Néanmoins, il y a des chiffres qui montrent une augmentation, notamment liée à la croissance économique. Comment vous, vous prêtez attention à ces chiffres ?
Bon, d'autres acteurs, pas seulement ces chiffres-là, mais d'autres acteurs montrent que finalement, ces emplois qui sont occupés par les frontaliers ne viennent pas véritablement impacter les demandeurs d'emploi côté suisse. C'est souvent ils viennent sur des emplois pour lesquels on ne trouve pas la main-d'œuvre qualifiée en Suisse. Donc, c'est pas pour rien d'ailleurs que ces entreprises viennent se localiser à proximité de la frontière. Ça, il faut aussi s'en rendre compte. S'il n'y avait pas cette main-d'œuvre frontalière, probablement qu'un certain nombre d'entreprises iraient se localiser plus à l'intérieur du pays.
Thierry Brunet, vous-même, vous percevez un peu le malaise qu'il peut y avoir de temps en temps du côté suisse de la frontière face à l'arrivée de ces frontaliers qui viennent travailler et dont certains pensent qu'ils viennent piquer leur emploi.
Oui, tout à fait, ça peut être compréhensible au sein d'une population qui peut avoir elle-même parfois des difficultés pour trouver un emploi ou qui peut se trouver confrontée à des difficultés économiques. Maintenant, comme le disait très justement ma collègue, nous sommes quand même sur des territoires un peu particuliers, des territoires de montagne, des territoires de frange, de marge, qui sont dynamiques parce que justement il y a ces mouvements de population, parce qu'il y a ces échanges, parce qu'il y a ces bassins d'emploi côté français. Donc c'est vraiment une complémentarité pour l'ensemble du territoire. Et c'est vrai que ça peut être difficile de voir ce phénomène global pour les personnes confrontées à des difficultés sur le marché de l'emploi. Mais c'est une vraie réalité. Il y a vraiment du gagnant-gagnant. Il y a vraiment un échange qui contribue au dynamisme de l'ensemble.
Il y a une attractivité côté suisse qui attire dans la zone fonctionnelle, on en a parlé, mais même au-delà, il y a des Français qui viennent de toute la France pour venir trouver de l'emploi du côté de l'arc jurassien.
Oui, c'est un phénomène qu'on a constaté depuis une quinzaine d'années. Il y a effectivement le bassin traditionnel de recrutement qui était composé de personnes originaires de la Franche-Comté, s'est considérablement élargi à d'autres territoires. Donc ce phénomène-là, il a aussi des répercussions en France en termes d'aménagement de territoire, en termes d'étalement urbain, en termes d'augmentation de population. Mais c'est aussi des questions de dynamisme, des populations jeunes qui viennent s'installer sur le territoire, donc qui portent aussi des potentialités en termes de consommation, de culture, en termes de dynamisme d'entrepreneuriat. Donc je pense qu'il faut vraiment peser l'ensemble, ça a fait un territoire quand même qui rajeunit, en tout cas du côté français, et ça c'est quand même une variable qu'il ne faut pas négliger, qui est importante pour nous aussi.
Mireille Gasser, évidemment ces flux ont des incidences au niveau des infrastructures, il n'y a qu'à penser bien sûr au flot de voitures, à la nécessité de faire par exemple un contournement au Locle, il y a cette ligne ferroviaire entre Delle et Belfort qui est attendue avec beaucoup d'impatience. Comment vous voyez les incidences de cet emploi transfrontalier qui ne sont pas des moindres ?
Évidemment côté suisse, les infrastructures ferroviaires et routières sont là pour amener plus ou moins bien les personnes qui viennent du plateau. Elles sont moins bien développées en direction de la France parce qu'on est sur deux réalités nationales différentes, mais aussi parce qu'on est confronté à une topographie, une géographie qui fait que les communications sont plus difficiles. Maintenant, on a mis en place aussi quelques solutions. Alors, ça reste des petites solutions, mais on a quand même développé un projet de covoiturage qui fait bien des envieux dans d'autres régions, un projet de covoiturage axé sur le covoiturage professionnel, donc les déplacements domicile-travail. Et c'est un projet qu'on développe très étroitement avec les entreprises qui sont directement intéressées par ce type de démarche parce qu'elles-mêmes sont confrontées à des problèmes de stationnement autour de leurs entreprises. Donc c'est une démarche un peu gagnant-gagnant qui nous permet un petit peu de contribuer au désengorgement des voies routières.
Alors ces flux transfrontaliers, on le comprend bien, c'est plutôt bon signe, c'est lié à la croissance, etc. Est-ce qu'au niveau de la mobilité, ce n'est pas la variable clé qui permettrait à tout le monde de mieux accepter ces flux si on arrivait à mieux maîtriser les nuisances dues au flot de voitures, au nombre de voyageurs ?
Ah, c'est effectivement un phénomène important. Il y a un phénomène de nuisance pour des villes qui sont traversées par des flux de voitures, dans les deux sens d'ailleurs, puisqu'effectivement, il y a effectivement la question de l'emploi, mais il y a aussi la question du tourisme d'achat et la forte fréquentation, voire de l'engorgement du réseau routier côté français. Le samedi, par exemple, dans l'autre sens. Donc ça, c'est un phénomène important. Après, la question à voir, c'est que le niveau de dynamisme des flux de population, il est lié quand même à un dynamisme économique. La régulation, les infrastructures qui vont avec, c'est forcément des temps beaucoup plus longs, des décalages d'adaptation, et c'est pas forcément simple de faire coller, en fait, les infrastructures à la réalité du terrain et aux flux de mobilité qu'on constate, parce que ces flux sont réversibles aussi. Des phénomènes peuvent se produire qui font que ces flux s'affaissent ou ralentissent. Donc c'est difficile aussi d'envisager d'avoir des infrastructures qui sont en permanence au niveau des besoins. Cela étant, il y a des marges de progrès énormes et des actions comme le covoiturage contribuent aussi à désengorger, puis à changer l'image aussi, un frontalier, une voiture, sur les photographies qu'on voit parfois à la frontière. Ça, c'est vrai que le fait d'avoir des systèmes collectifs change un peu l'image aussi dans la population. Donc c'est effectivement des choses qu'il faut continuer à développer.
Thierry Brunet, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous nous parlez du flot inverse, des Suisses qui viennent volontiers en France le samedi matin faire leurs courses, avec aussi son lot de nuisances, et les chiffres le montrent, il y a trois fois plus de grandes surfaces, d'hypermarchés côté français.
Oui, tout à fait. Le fait d'être en zone frontalière, c'est une réelle opportunité pour les villes comme Pontarlier ou comme Morteau aussi, d'ailleurs. Ça favorise en fait la plantation de commerces, de grandes surfaces et d'activités de services, avec effectivement des flux de circulation sur des territoires qui ne sont pas eux non plus calibrés pour des volumes de population. Pontarlier, c'est le cas classique, c'est la question de la RN57 depuis longtemps et des embouteillages qu'il peut y avoir à la fois pour le travail frontalier et à la fois dans l'autre sens pour le tourisme d'achat. Cela étant, une ville comme Pontarlier bénéficie largement de ce dynamisme-là. Donc quelque part, les nuisances là aussi sont quand même compensées par un niveau d'équipement et de service qui ne serait pas envisageable dans d'autres cas. Là aussi, il faut essayer de relativiser les choses et un embouteillage à Pontarlier, c'est pas non plus un embouteillage à Paris. Donc il faut aussi mettre les choses à leur juste place.
Mireille Gasser, est-ce que vous ne percevez pas une forme de schizophrénie dans notre manière de percevoir nos liens transfrontaliers? On s'étonne, on s'inquiète de l'arrivée des travailleurs français, mais en même temps, on va volontiers de l'autre côté de la frontière pour faire nos courses.
Bah écoutez, c'est un peu la nature humaine. On prend ce qui nous arrange. Donc en l'occurrence, pour des questions économiques, c'est plus avantageux pour nous d'aller consommer côté français. Donc on trouve ça plus ou moins naturel. Mais par contre, à partir du moment où on vient nous prendre, entre guillemets, notre travail, ça nous dérange. Mais en même temps, les deux choses procèdent du même développement économique de la région.
Et vous, Thierry Brunet, par rapport à la perception que vous avez des relations transfrontalière entre la Suisse et la France, est-ce que vous avez l'impression depuis le temps que vous travaillez à cela qu'elles se sont améliorées, qu'elles plafonnent, qu'elles sont amenées à se développer?
Je crois que globalement, il y a une meilleure compréhension à force de se rencontrer régulièrement, d'avoir rendu ça de manière plus institutionnelle. Les gens se connaissent mieux et il y a une meilleure intégration dans les réflexions de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Il y a une volonté de mieux connaître ce qui se passe chez le voisin. Donc on sent que ça, de ce côté-là, ça avance, ça progresse. Après, conjoncturellement et ponctuellement, ça peut dépendre aussi de la volonté des personnes. C'est un domaine qui implique beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup de changements et il peut y avoir des discontinuités parfois, mais globalement je pense quand même que l'intérêt de se parler et de travailler en commun maintenant est beaucoup plus net de part et d'autre de la frontière.
On parle d'une nouvelle initiative lancée par l'UDC contre la libre circulation des personnes, ce qui risque de nuire aussi d'une certaine manière à l'image, si ce n'est pas à la réalité des échanges concrets entre la Suisse et la France. Est-ce qu'au niveau politique, est-ce qu'on peut dire que le climat, notamment côté suisse, s'est dégradé? Est-ce que c'est comme ça que vous le percevez?
Vu de France, la votation de 2014 a quand même posé problème et a interpellé, ça c'est évident. Il y a eu pas mal de craintes qui se sont plus ou moins estompées avec le temps, avec les négociations telles que ça a été mené et les résultats auxquels on a abouti, même si tout n'est pas forcément satisfaisant encore et que les gens attendent de voir vraiment ce qui va se traduire par la notion de préférence nationale light. Par contre, pour ce qui concerne les nouveaux projets, c'est connu, les observateurs voient bien et savent bien qu'il y a ces tensions récurrentes. Après, pour l'instant, il faut attendre de voir et de voir la tournure que ça va prendre. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas plus forcément d'inquiétude qu'il y a quelques mois.
Mireille Gasser, est-ce que ce climat politique plutôt difficile et délicat en Suisse, est-ce que ça rend votre conférence transjurassienne encore plus nécessaire ou au contraire, est-ce que ça vous met des bâtons dans les roues?
Non, au contraire, ça justifie l'existence d'un organisme tel que celui-ci, mais ça nous donne peut-être aussi d'autres missions et c'est pourquoi depuis maintenant 2 ans, la conférence transjurassienne met beaucoup l'accent sur le vivre ensemble transfrontalier. Finalement, c'est en travaillant auprès des populations locales, sur des petites actions, des actions de proximité qui permettent de mieux se connaître de part et d'autre, qu'on espère aussi faire un peu évoluer de manière générale les mentalités. Et puis, pour soutenir justement ces démarches, la conférence a mis en place maintenant un fonds de soutien aux petits projets transfrontaliers qui vit depuis le début de l'année 2017, qui a été renouvelé cette année. Donc c'est aussi un appel à toutes les associations, structures associatives qui auraient des projets pour renforcer ce vivre ensemble à venir nous voir.
Et vous pourrez retrouver notre lien vers ces données statistiques transfrontalières sur la page de l'émission Place Publique sur rjb.rtn.rfj.ch.
Place publique.
Mai 68, c'était il y a 50 ans. Ce mouvement de contestation de l'ordre établi a laissé une empreinte majeure dans les esprits, pas seulement en France, où il a été particulièrement virulent, mais aussi en Suisse. Pour s'en convaincre, on peut se rendre au Musée d'histoire de Berne, qui consacre jusqu'au mois de juin l'une de ses expositions à cette page de notre histoire contemporaine. Aline Minder, responsable pour la formation et la médiation au Musée d'histoire de Berne, nous dit de quoi il est question.
En Suisse, il y a aussi eu un mouvement 68. C'est un mouvement que l'on ne peut pas fixer à, dans une ville ou dans une métropole parce que la Suisse, justement, est très diverse. Il y a eu des événements en Suisse alémanique, en Suisse romande, mais aussi dans le Tessin. Et donc, c'est ça qui est caractéristique, en fait, pour le mouvement 68 en Suisse, c'est qu'il s'est passé à plein d'endroits différents.
Néanmoins, il y a eu des événements marquants.
Exactement, il y a eu des événements marquants, comme par exemple les émeutes du Globus à Zurich, mais aussi des occupations d'universités, etc. Donc, il y a eu plusieurs événements qui ont fait que ce mouvement 68 a quand même été identifié et remarqué déjà à l'époque et aussi jusqu'à nos jours.
Y compris dans l'arc jurassien, dans notre région.
Donc, en relation avec ces émeutes du Globus qui ont été la conséquence d'une revendication pour un centre autonome à Zurich, on a, suite à ça, en Suisse, réagi beaucoup plus rapidement à ce genre de demande des jeunes, justement pour un centre autonome. Et un de ces centres autonomes, qui est notamment le plus ancien qui existe toujours, est la Coupole à Bienne.
Un centre plus ancien que celui de la Reitschule qui fait beaucoup plus parler de lui en matière de contestation.
Exactement, la Reitschule, c'est venu bien après, c'est dans les années 80. Et on peut dire que le mouvement des années 80 est aussi dans le continu du mouvement 68, mais c'est un mouvement qui est quand même différent du mouvement 68.
Votre exposition retrace donc l'histoire de mai 68 en Suisse, grâce notamment à des témoignages.
On a interviewé 16 témoins de toute la Suisse, en partie de la Suisse romande, mais aussi de la Suisse alémanique et du Tessin. Et ils proviennent tous de différents contextes. Il y a par exemple des gens qui étaient actifs au niveau politique, mais il y a aussi des personnes qui étaient plutôt dans la culture ou plutôt qui ont essayé, par exemple, des nouvelles formes de vie dans les communautés, par exemple. Donc, c'est eux qui font le fil rouge de l'exposition et qui nous racontent, en fait, leur mai 68.
Votre exposition s'attarde aussi sur l'héritage de mai 68. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui?
Un point, par exemple, sur lequel tout le monde est d'accord, donc les témoins, mais aussi les experts, les historiens, les historiennes, c'est le mouvement féministe, qui est quand même vu comme un héritage qui reste d'actualité jusqu'à nos jours. Quand on parle, par exemple, de MeToo, c'est quelque chose que chaque même jeune connaît, on sait de quoi on parle. Donc ça, c'est un mouvement qui a vraiment laissé des traces, donc avec la votation sur le droit de vote pour les femmes en 1971, mais justement aussi la lutte pour l'égalité dans le privé, mais par exemple aussi la lutte contre la violence au foyer, etc.
1968, Suisse, une exposition donc à découvrir au Musée d'Histoire de Berne encore jusqu'au 17 juin. Et parmi les témoins de cette époque, Marie-Thérèse Sautebin, cette biennoise d'origine française a vécu mai 68 dans son pays avant de débarquer en Suisse. On vous propose... Voici qu'elle nous livre quelques-uns de ses souvenirs.
En 68, j'avais 20 ans et j'étais étudiante en lettres à l'Université du Mans en France, une petite université construite en préfabriquée pour accueillir la masse des étudiants qui arrivaient. La période des années 60 était début de la démocratisation des études et j'étais une fille du monde rural, et j'arrivais parmi ce monde universitaire qui était tellement étranger à mon monde.
Vous étiez au Mans, vous n'étiez pas dans l'épicentre de la contestation à Paris, néanmoins. Mmh. Est-ce que ce mouvement était perceptible où vous étiez?
Ah oui, évidemment, les cours n'avaient plus lieu, les assemblées générales avaient lieu dans les aulas de l'université, mais alors ce n'était pas l'épicentre au niveau étudiant. Par contre, c'était l'épicentre au niveau ouvrier, puisque Le Mans est la ville de Renault. Et les ouvriers de Renault-Le Mans ont fait la jonction avec les étudiants en plein mai 68, en plein dans la ville où j'étais. Et je m'en souviens très bien.
Quelles étaient vos revendications? Qu'est-ce que vous en attendiez de ce mouvement?
Personnellement, je n'avais pas de revendications à l'époque, dans la mesure où je me sentais déjà très favorisée d'avoir pu faire les études que je souhaitais. Par contre, par rapport à mes amis, mes sœurs qui travaillaient dans le monde rural, c'était vraiment la reconnaissance de cette activité qui était encore très décriée, qui était très méprisée. Et je pense que les revendications de mes sœurs et de mes parents en tant qu'agriculteurs me portaient. Alors par rapport au monde étudiant, c'était aussi d'avoir un peu plus de place dans les cours, mais on ne savait pas ce que ça voulait dire. C'était des revendications, mais qui étaient sans intention directe dans mon cas. Par contre, les étudiants à Paris et dans les grandes universités, essentiellement conduites par les mouvements de gauche, ils avaient des revendications beaucoup plus conscientes.
Marie-Thérèse Sautebin, quelques années plus tard, vous débarquez en Suisse. Et là, est-ce que le mouvement de mai 68 a des prolongements? Est-ce que vous en ressentez les effets, y compris en Suisse?
Bah écoutez, le choc était déjà violent, sachant qu'en 71, les femmes avaient obtenu le droit de vote. Je ne pouvais pas imaginer que dans un pays proche de la France et développé, les femmes n'aient pas eu le droit de vote avant. C'était un choc culturel énorme. L'autre chose, c'est que en France, les femmes ont largement une activité professionnelle et arrivant en Suisse, je me trouvais dans un monde où encore une large part des femmes s'arrêtaient lorsqu'elles avaient des enfants. Pour moi, c'était très conservateur. Alors d'autre part, j'ai découvert le monde ouvrier, le monde social, où il y avait des tas de choses, il y avait la migration. Donc je me trouvais avec les Espagnols, les Italiens, les Portugais, puisque je parlais aussi l'espagnol, donc j'avais beaucoup d'empathie pour ce monde étranger, ouvrier, et qui était tellement décrié. C'était l'histoire des initiatives Schwarzenbach contre l'immigration, contre la surpopulation étrangère à l'époque. Donc ça, je trouvais que c'était tellement grave.
Vous trouvez donc des combats, vous vous mobilisez?
Ah oui. Les droits des migrants ont été les premiers sujets sur lesquels je me suis intéressée en Suisse.
Marie-Thérèse Sautebin, 50 ans plus tard, selon vous, est-ce qu'il y a de bons fruits de mai 68 ou vous seriez d'avis que tout est à refaire?
Ah, c'est deux choses différentes. Payer des bons fruits, c'est évident. Les droits des femmes ont progressé, les droits des travailleurs ont progressé. Ça, c'est sans conteste. La mise en cause de la suprématie de l'Église dans une série de familles a aussi beaucoup bougé. C'est évident. Il y a eu des retours en arrière, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il faut reprendre. Donc il y a les deux. Il y a besoin de garder les acquis qu'il y avait eu et il faut se remobiliser par rapport à des nouvelles questions. Ça, c'est aux jeunes de le développer aujourd'hui, par rapport au retour sur la démocratie, par rapport à l'invasion d'une culture ultralibérale, d'une presse qui perd de son autonomie pour des motifs d'accaparement financier. Je trouve qu'il y a un travail énorme à faire. C'est pas sur les mêmes sujets.
C'est tout pour Place Publique. Merci de nous avoir suivis. Vous allez retrouver cette émission, bien sûr, en ligne sur nos sites web et sur nos applications. À la semaine prochaine. Excellente soirée.
Place Publique.